Merci Ibrahim, merci pour cette exhortation. C'est vrai que c'est un exercice que le Saint-Esprit nous aide à faire cet exercice d'aimer. Il nous aide à pardonner, mais aussi à recevoir le pardon. Voilà. Alors moi, je vais sûrement un peu abréger en lisant moins les versets, mais le titre que je donnerai à mon petit sermon, c'est « Nous participons à la construction du temple de Dieu ». Et je prends ici quelque chose que Pierre a écrit en 1 Pierre 2. On va lire les versets 1 à 8. Alors, d'abord, Père Céleste, je te remets ce moment et je te prie que tu continues à nous parler, à nous remuer, à nous mettre au défi et à nous aider. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le 1 Pierre 2, « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Alors de qui parlent ceux qui bâtissaient? Nous savons qu'Israël est le peuple élu de Dieu. Il le reste. Il y a un reste qui reviendra à la surface, au millénium. Et donc, c'est ceux qui bâtissaient, il est question d'eux pour ça, le peuple élu. J'aimerais lire dans la version second 21 les versets 4 et 5. Je trouve que ça parle un peu différemment. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Voilà. Alors, je veux faire maintenant un retour au début dans l'Ancien Testament quand la dynastie de Jésus a commencé. Et c'est en 2 Samuel 7. Je ne vais pas lire les versets, j'avais l'intention de les lire, mais c'est assez long. 2 Samuel 7, il y a le roi David exprime le désir de construire une maison pour Dieu. Et au verset 2 de ce chapitre, nous dit, il dit donc, David dit à Nathan le prophète, voici donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Alors, après, il y a un long passage, les versets 4 jusqu'à 15. C'est Dieu par Nathan, il dit à David, mais tout au long j'étais avec toi, mais j'ai jamais eu de maison, j'ai jamais demandé une maison, j'ai jamais demandé qu'on me fasse un temple. En fait, il s'agit du temple qu'on a construit. Et au verset 16 du chapitre 2 Samuel 7, je trouve ça, c'est une magnifique promesse. Il dit à David, fait dire à David, ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Et donc Jésus est sorti de cette dynastie. Au millénium, nous aurons quelqu'un de la généalogie de David qui régnera sur le trône. Nathan rapporta, c'est le verset 17, à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et vous savez, dimanche soir, on a essayé de chanter ce fameux verset en Apocalypse 1, verset 5 et 6. Cette promesse de la dynastie éternelle, c'est également pour moi, le croyant, car je suis en Christ, je suis en Christ, nous sommes en Christ. Et Apocalypse 1, verset 5 à 6, de la part de Jésus-Christ, mon roi, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 1 Chronique 22. Verset 1. Là, David parle de l'endroit où le temple sera construit. Et David ordonna de rassembler même les ouvriers qui étaient dans le pays d'Israël, établit des tailleurs de pierre pour tailler des pierres de taille pour bâtir la maison de Dieu et préparer du fer en abondance pour les clous, c'est très détaillé, pour les battants des portes et pour les assemblages, et de l'airain en abondance, on ne pouvait même pas peser tellement il y en avait. Et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens amenèrent à David des bois de cèdre en abondance. Je vais tourner ma page. Et je ne pouvais pas m'empêcher de ce passage-là. Et voici, donc, David, il parle à son fils Salomon, parce qu'il le charge de construire le temple. Et il dit au verset 14, « Et voici dans mon affliction, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel de l'or 100 000 talents et de l'argent 1 000 milliers de talents, ça veut dire 1 million, et de l'airain et du fer sans poids, car il est en abondance. Et j'ai préparé du bois et des pierres, et tu y ajouteras, il lui dit. » Et tu as avec toi beaucoup d'ouvriers, des tailleurs de pierre, des maçons et des charpentiers, et toute espèce d'homme expert en tout ouvrage. Et j'ai une Bible, vous avez certainement des Bibles aussi, où il est dit l'équivalent dans nos poids et mesures. Le talon, c'est l'équivalent de 49,2 kilos. Alors, 100 000 talons d'or, ça fait 4 920 tonnes d'or. 1 million de tonnes d'argent, ça fait 49 200 tonnes d'argent. Alors, je me suis demandé, est-ce que c'est plausible? Et j'ai fait une petite comparaison d'actualité, plus ou moins. Est-ce que vous connaissez le pont de chemin de fer qui traverse l'Arve? Vous l'avez déjà vu, ce pont? Non? Ouais. Et quand ils allaient le mettre en place, ce pont, ils ont marqué dans les médias qu'ils allaient mettre un pont en fer sur l'Arve qui pèse 2500 tonnes. Vous imaginez? Et ça fait peut-être même pas 100 mètres de long. Là. Et 2500 tonnes, c'est très compact. Donc, ça paraît plausible d'avoir eu autant de moyens pour construire le temple futur de Salomon. Mais ce qui est important, ce que j'en tire, que David, le roi David, il croyait que ce temple allait se réaliser. Il avait vraiment une foi que ça allait se faire. Et pourquoi il l'a fait? Et il l'a fait pour la gloire de Dieu, pour élever Dieu. Hein? Il entamait donc les préparatifs pour quelque chose de gigantesque que son fils devra accomplir. Donc ça, c'est vraiment, c'était la foi. Et ça ressent de 1 Chronique 22, c'est le passage avant ce qu'on a lu en quantité. Car David dit, Salomon, mon fils, est jeune et délicat, et la maison à bâtir pour l'Éternel doit être très grande en renom et en beauté dans tous les pays. Ainsi je préparerai pour elle ce qu'il faut. Et David le prépara en abondance avant sa mort. Et après, il donne les instructions à Salomon. Et en même temps, il dit que Nathan lui a dit que c'est pas David qui construirait parce que sa vie de roi était ensanglantée. Et il dit au verset 8 et 9, je vais vous lire. « Mais la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras point une maison à mon nom, car tu as versé beaucoup de sang sur la terre devant moi. Voici un fils te naîtra. » Lui sera un homme de paix, et je lui donnerai du repos de tous ses ennemis tout à l'entour, car son nom sera Salomon, et sera un homme de paix. Il y a la notion paix dans le nom de Salomon. Donc, c'est très profond comme. Je continue sur ma lancée. Et David qui a réuni les matériaux précieux, justement en prévision que Dieu soit glorifié, mais aussi en reconnaissance de ce que Dieu avait fait pour l'amener jusque-là. Est-ce que nous transmettons à nos descendants spirituels des matériaux du temple en construction? Est-ce que nous le faisons? Nous devons penser à ça. Nos enfants sont devraient être des enfants de paix, comme Salomon était. Comme le roi David, est-ce que nous mettons en abondance toutes nos richesses personnelles, c'est-à-dire notre amour pour Dieu, on en a entendu parler, nos dons, nos capacités, notre temps, notre savoir-faire à disposition pour la construction de ce temple spirituel dont il est question par le passage en 1 Pierre 2. Au lieu de gaspiller une grande partie de ce que je viens de citer, hein, gaspiller pour nous, allons à l'église pour que la construction du temple spirituel ne manque pas des pierres précieuses, si précieuses que nous sommes pour Dieu. 1 Pierre 2, 6, il est dit, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Soyons ces pierres vivantes, alignons-nous sur la pierre vivante, la plus précieuse et la plus parfaite sur Jésus-Christ. Avons-nous vraiment le désir de participer à la construction de cette maison spirituelle pour Dieu? Je l'espère que oui. Prions-nous pour des choses, même si elles nous paraissent incertaines, ou dont nous sommes presque certains qu'elles ne se réaliseront pas durant notre vie terrestre. Je dis souvent, mais ça c'est moi, ma conviction intérieure. J'ai ma tante qui m'a élevé à partir de 6 ans, tante Catherine. Si je peux au ciel lui parler, je la remercierai qu'elle a prié pour moi, pour qu'un jour je rencontre Jésus. Ça, je suis sûr. C'est ma conviction à moi. Mais je ne l'ai jamais entendu prier, mais je suis sûr. Ils n'avaient pas une vie facile. Hein, et ils ont perdu des enfants en bas âge. L'aîné, plus âgé, mon cousin, il s'est suicidé. Et il allait être médecin peu de temps après, mais il s'est suicidé. Mais ils gardaient leur foi, mon oncle et ma tante. Voilà. Ensuite, autre questionnement, est-ce que nos prières ne concernent-elles que le court terme, nos petits bobos, nos choses du moment? N'oublions pas dans nos prières le long terme, n'oublions pas de rappeler à Dieu ce qu'il nous promet aussi dans nos prières. Est-ce que nous croyons sans voir la réalisation arriver, nous? C'est très important de croire lorsque nous prions que des choses pour lesquelles nous prions se réalisent sans que Dieu nous les fasse voir durant notre vie à nous personnels. C'est pourquoi continuons à prier même pour des situations dont Dieu s'occupera à l'écart de notre vue. Il faut aussi prier pour ça. Et concernant l'évangélisation, évangélisons-nous en acceptant que les fruits... J'ai franchement aussi un peu de peine pour ça, cette question, sont en acceptant que les fruits se récoltant peut-être ailleurs que parmi nous. Hein? Depuis que je suis à l'église, franchement, j'ai participé à énormément d'évangélisation. Depuis le début, j'allais aux évangélisations. Mais mais je n'en vois que peu de fruits qui venant de ça. Fruits visibles, mais je veux croire que ce que j'ai fait et ce que nous faisons est utile et indispensable, et en même temps, ça nous procure une telle joie intime, ça. Vous êtes d'accord avec ça? C'est quand vous rentrez, comme le psalmiste le dit, on sort en pleurant, mais on rentre en chantant, n'est-ce pas? Et moi, je crois que même notre Église, elle récolte des fruits d'évangélistes qui ne sont pas du tout autour de nous. On ne sait pas comment certaines personnes arrivent ici. C'est peut-être une façon de montrer que nous faisons ce que nous devons faire et Dieu nous bénit à travers cela. On a ensuite encore, est-ce que notre foi est une foi, elle doit être une foi en ce qui est vrai et juste selon Dieu. Et notre volonté d'obéir à ce que Dieu veut, ça s'appelle de l'obéissance. 1 Samuel 15, 22, le fameux verset dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ?» comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Nous devrions éviter d'adapter notre désir à la volonté de Dieu, mais plutôt essayer de nous conformer à sa volonté. La pierre spirituelle, vous savez, elle est vivante, mais elle a besoin d'être taillée avec les outils de Dieu, et c'est sa parole. Et le travail de taille de pierre, ça doit faire mal à la pierre, hein, surtout si on est vivant. Mais avouons quand même que d'élever Dieu de tout notre cœur, par tous nos moyens, est un magnifique projet, n'est-ce pas? C'est un projet éternel de participer à la construction d'un temple spirituel pour Dieu. C'est élever Dieu aussi. Merci Dieu de nous gratifier de ça. Merci de nous permettre de faire ça, que nous puissions parler à des gens de Dieu. Et la motivation de David, comme on a vu, pour construire le temple, c'était évidemment aussi parce que à travers Nathan, il a reçu les promesses. Et donc, notre motivation peut également se fonder sur la promesse de l'éternité avec Dieu. Un jour, nous le verrons tel qu'il est, Jésus. Nous serons avec lui. Alléluia. Ça, c'est magnifique. Et c'est important pour nous de participer à la construction de ce temple et d'être une pierre vivante. Portant, en fait, nous sommes posés et au-dessus de nous, encore une autre pierre, encore une autre, c'est ce que nous espérons, n'est-ce pas? Le temple de Dieu est spirituel et indestructible. Ça, nous l'avons appris dans Jean 2, 15. Oui, plutôt commençant à au verset 17. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». C'est quand Jésus a chassé les marchands du temple. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent : Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ? Ils ne comprenaient pas pourquoi ils chassaient les marchands du temple. Jésus leur répondit : Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent : Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. C'était d'ailleurs déjà la deuxième version du temple quand c'est arrivé. Il était moins beau que celui de Salomon. Et toi, en 3 jours, tu le relèverais ? Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Dieu y dit donc dans ce passage, en Jean 2, que nous pouvons détruire son corps. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Nous avons détruit son corps, mais 3 jours après, ce corps est ressuscité et il a été reconstruit. Il vit maintenant éternellement. Je ne sais pas où il est, mais il sait que où je suis moi. De chacun de nous, il sait où nous sommes. Et il est ressuscité. En 2 Corinthiens 4, 18b, ça souligne la spiritualité, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et pour finir encore, parlons du salut. Ce n'est pas quelque chose de collectif. Ce n'est pas parce que je suis de telle et telle église, que je suis chrétien de famille, que je suis sauvé. En Luc 3, 8, ça c'est Jean le Baptiste qui donne cet indice. « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Et ça voulait dire en d'autres termes que ni tradition, ni appartenance religieuse, ni généalogie, ni comportement moral aussi bon qu'il soit, ne font de nous des enfants de Dieu. Chacun doit accepter Christ personnellement et avoir une relation correcte avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit à un éminent théologien, Nicodème, il a dit : Il vous faut naître de nouveau. Et avec ça, nous bouclons encore une partie du verset du début, en 1 Pierre 2, 1, où il est question de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Enfants nouveau-nés, nous sommes des enfants nouveau-nés. Amen. Amen. Voilà, c'est terminé. Père Céleste, je te prie que tu nous donnes un écho. Peut-être nous allons continuer chacun à réfléchir à ces belles choses que tu nous as communiquées à travers ta merveilleuse parole. Merci. Sois béni au nom de Jésus. Amen.